on va passer l'après-midi ensemble. Et Pierre-Henri Nault, on a eu ce désir qu'on entende cet après-midi ensemble Jésus parler. Alors dans la première partie, on va entendre Jésus parler, et en particulier lorsqu'il était sur cette montagne où il a fait un discours. Un discours qu'on appelle le sermon sur la montagne. Donc quelques paroles, et on va être étonné de voir que le Seigneur Jésus, il serait en 2001 autour de nous, et bien il aurait sans doute les mêmes mots, les mêmes paroles à nous dire. Et parce que si le monde apparemment a changé, visiblement l'homme, le cœur de l'homme n'a pas changé. Alors on a besoin d'entendre et de réentendre Jésus nous parler. Et puis dans la deuxième partie, Pierre-Henri nous parlera de Jésus, nous dira des paroles. Jésus va parler, mais lorsqu'il était sur la croix. Et c'est un moment particulier où Jésus a dit des choses qui sont tellement fortes et qui touchent tellement notre cœur et qui nous aident aussi à nous mettre en mouvement pour lui, pour vivre pour lui. Alors donc quelques paroles donc du Seigneur. Donc on a un peu partagé ça, cette réponse à des problèmes ou des comportements de société, et puis les sept paroles de la croix. Alors, nous avons donc préparé ce travail. Je dois dire que lorsque j'ai préparé ce sujet, j'ai été très repris personnellement par ces paroles de Jésus. Et je crois que, mais pas pour me décourager, mais pour dire voilà, Jésus finalement c'est un révolutionnaire dans un sens, il veut tout transformer à l'intérieur de nos vies pour nous faire vivre d'une manière libre, une manière où on peut aimer, une manière où on peut vraiment s'épanouir. La deuxième chose aussi, c'est que j'ai été étonné, je venais de vous le dire, que ce que Jésus propose, ses déclarations, ses réponses, c'est applicable tout de suite, et non pas après un programme d'études ou de travail. Alors, ce que nous allons essayer de considérer ensemble, c'est premièrement le matérialisme, ensuite la méchanceté, la critique, les conflits, l'égoïsme, le vice et le stress. Alors, bien sûr, si en quelques minutes on va parler de ces sujets, voilà, c'est simplement un début comme une amorce de réflexion pour chacun de nous. Donc nous allons commencer par le matérialisme, et je vous propose que nous lisions, mais vous l'avez sur l'écran, ce verset donc, que nous trouvons dans ce discours du Seigneur Jésus. Il nous dit « Cherchez d'abord ou premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc c'est au moment où les personnes pourraient se poser un problème, une difficulté, mais comment allons-nous nous vêtir? Comment est-ce que nous allons manger demain, etc. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc est-ce que ça veut dire que sur la terre, on va faire obstruction de toutes les questions matérielles qui se posent à la vie de tous les jours? Nous sommes sur la terre. Non, pas du tout. Il n'a pas dit « chercher uniquement le royaume de Dieu », mais premièrement le royaume de Dieu. On va venir petit à petit pour expliquer tout cela. Mais le Seigneur Jésus veut nous apprendre une chose, c'est que, est-ce que, sur quoi est-ce que nous basons notre stabilité, notre sécurité? La caractéristique du matérialisme, c'est donc de se fier à tout ce qui se voit, tout ce qui se touche, tout ce qui fait appel à nos différents sens. Et puis, le problème, c'est que si un de ces piliers de ma stabilité tout d'un coup se dérobe, c'est la catastrophe. Et le Seigneur Jésus veut justement nous apprendre que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons, eh bien, nous pouvons rester stables, affermis. Il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament, et c'est David, dans ce psaume, dans le psaume 30, qui nous dit ceci. Au verset 6 ou 7 selon les versions, « Moi j'ai dit dans ma prospérité, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, Par ta faveur, tu as donné la stabilité et la force à ma montagne. Et puis, après trois petits points, tu as caché ta face, j'étais épouvanté. Voilà, Dieu peut bénir, nous apporter un salaire à la fin du mois, la santé, peut nous donner une famille, peut nous donner des frères et sœurs. Et puis, on peut s'appuyer là-dessus, on peut dire, voilà, je suis bien parce que j'ai tout cela. Et puis c'est Dieu qui me l'a donné peut-être. Et puis voilà que quelque chose se dérobe et je ne sais plus où j'en suis. Alors, David, un petit peu plus loin, le psalmiste dit dans le psaume 39 aussi où l'homme s'agite, il amasse des biens, il sait ce qu'il les recueillera. Et maintenant, qu'est-ce que j'attends, Seigneur? Et nous lisons, et mon attente est en toi. Alors, nous voilà maintenant dans la découverte d'une chose, c'est que Dieu peut donner, mais l'important, ce n'est pas de s'appuyer, se stabiliser sur ce qu'il nous donne, mais sur lui-même. Et maintenant, peut-être que, qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu que nous avons à rechercher? Parce que ce n'est pas évident, c'est quelque chose à rechercher, à chercher. Le royaume de Dieu. Jésus vient d'arriver et il dit le royaume de Dieu s'est approché. C'est-à-dire le règne de Dieu s'est approché. Et nous comprenons bien ce qu'il veut dire. Bien sûr, Jésus, le Messie, le roi, vient d'arriver et il vient pour régner. Et pour établir la paix, la stabilité sur la terre où il se trouve. Et les gens ne veulent pas de lui. Et c'est le chaos. Par contre, ceux qui veulent de lui, ceux qui veulent bien se soumettre à l'autorité du Seigneur qui vient là, se soumettre à son autorité, ça veut dire profiter des bénédictions de Dieu, des biens de Dieu. Alors ça, c'est la paix, ça, c'est la sécurité, ça, c'est la satisfaction. C'est la paix, vraiment. Voilà ce que le Seigneur Jésus veut proposer. Mais si on ne se soumet pas, même en tant que chrétien, dans sa vie de tous les jours, de chaque instant, c'est le chaos dans notre vie. C'est le chaos dans nos familles. C'est le chaos partout. Et le Seigneur Jésus dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Donc nous comprenons que le Seigneur Jésus veut nous dire, c'est une attitude de mon cœur. Si par exemple, j'imagine que le salaire que j'ai à la fin du mois, c'est le fruit de mon travail, c'est vrai. Mais si je le prends comme ça, eh bien, je n'ai à dire merci à personne. Si ma santé est bonne, parce que je pense que je ne fais pas d'excès, je ne dirai merci à personne, sinon à moi-même. Mais si tout ce que j'ai, tout ce qui m'est donné, je le reçois vraiment comme venant de Dieu, alors voilà une vie transformée, une vie d'action de grâce, une vie de louange, une vie de satisfaction. Tout est changé dans mon attitude. Je reçois tout comme venant de lui. Et nous avons lu ça, et toutes choses vous sont données par-dessus. Alors que cette attitude de notre cœur, vraiment, qui est quand même quelque chose de changé, nous ne le prenons pas comme notre mérite, mais comme un don de Dieu dans sa grâce. Alors, par cette joie de pouvoir rendre grâce à chaque moment, du matin jusqu'au soir, que tout ce que j'ai, c'est un don de Dieu. Alors, voilà Dieu qui donne libéralement. Et je vous ai marqué aussi là pourquoi nous nous battons souvent le moins. Alors, lorsque Christ règne dans ma vie, notre vision de la vie est complètement changée. Et regardez, un exemple pour terminer. Paul, l'apôtre Paul, qui peut dire, j'ai appris. Alors que la caractéristique du matérialisme, j'ai jamais assez, je suis insatisfait, je veux encore. Voilà Paul qui nous dit à tous, j'ai appris, et c'est dans Philippiens 4 que vous lisez cela, à être content dans les situations où je me trouve, et je suis enseigné, initié, aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'être dans les privations, et je peux tout en celui qui me fortifie. Voilà donc simplement cet encouragement à confier nos vies au Seigneur, celui qui veut régner. Le royaume de Dieu est là, le règne de Christ dans ma vie, et pour profiter de tous les biens qu'il veut nous donner. La deuxième chose que le Seigneur va dire, c'est quelque chose de particulier. Aimez vos ennemis. Et nous sommes bien conscients que c'est inconcevable, ou en tout cas impossible par nous-mêmes. Et je voudrais lire donc dans Matthieu chapitre 5 et au verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, ainsi vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous avez entendu dire, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Cherchez ce verset. Vous ne le trouverez pas. C'est la tradition qui a amené ça jusque-là. Par contre, il est dit d'aimer son prochain comme soi-même, même si c'est un ennemi, puisqu'il est dit, tu ne te vengeras pas, tu garderas par rancune au fils de ton peuple. Ça, c'est, on trouve ça dans le Lévitique. Et puis même, quand ton ennemi aurait un problème avec un animal, par exemple, il est écrit quelque part, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi égaré, tu ne manqueras pas de lui ramener. Alors, la méchanceté. La méchanceté, nous avons trois textes que vous avez là sur l'écran, qui commencent tous par ne rendez à personne mal pour mal. Donc voilà la transmission de la tradition, tu haïras ton ennemi. Bien sûr, on a des psaumes imprécatoires, mais qui demandent à Dieu de venger de l'ennemi. Mais ce n'est pas à nous à faire cela. Et alors, nous trouvons dans le Nouveau Testament trois textes que je vous ai mis là sous les yeux. C'est ne rendez à personne mal pour mal. Ça sera déjà pas mal, ça. Mais ce n'est pas ça que Jésus demande. Il demande bien plus quand il dit aimez vos ennemis. Alors ça, c'est quelque chose de positif. Et là, nous voyons, c'est de se proposer ce qui est honnête au milieu de l'injustice dont on est peut-être la victime, de vivre en paix, alors que voilà la guerre qui nous est proposée par un ennemi. Il nous est dit aussi de poursuivre ce qui est bon, alors que c'est des machinations de mal qui sont là autour de nous, à l'égard de tous les hommes, y compris donc des ennemis. Et puis, le verset de Pierre, c'est de bénir, de dire du bien, de vouloir le bien, de faire du bien à celui qui nous fait du mal. Mais, vous savez, moi je suis très humble avec ce sujet parce que je ne crois pas avoir aujourd'hui d'ennemis. Donc je ne sais peut-être pas de quoi je parle exactement. Mais il y a certainement beaucoup de nos frères et sœurs dans ce monde qui souffrent. La vie est entre les mains de personnes qui leur veulent tellement de mal. Mais vous ne croyez pas qu'il peut y avoir aussi quelque chose de fort dans ceux qui peut-être ne sont pas si loin, relativement proches, et qui s'opposent constamment, qui nous contredisent avec de mauvaises intentions. Alors, est-ce que c'est facile de confier cette souffrance-là comme notre Seigneur qui pouvait dire « Lorsqu'on l'outrageait, ne rendez pas l'outrage. Lorsqu'il souffrait, ne menacez pas, mais remettez à celui qui juge justement. Remettre à celui qui juge justement. » Alors, on comprend que ici nous sommes plus dans le domaine du sentiment. On ne peut pas sentimentalement aimer son ennemi, mais nous sommes là dans ce que Dieu opère dans ma vie. Permettre d'aimer ceux qui me veulent du mal. C'est l'œuvre de Dieu. Je peux cela lorsque Jésus vit à travers moi et Jésus peut aimer à travers moi. Je peux aimer alors de tout mon cœur quelqu'un qui m'a fait du mal. Je me souviens d'une histoire aussi parce que le remède, c'est quoi? C'est prier. Une personne, une chrétienne qui avait été violée dans son enfance, une personne qui s'était convertie par son père et donc elle ne pouvait jamais plus parler à son père. Et pourtant, lorsqu'elle était chrétienne, elle a dû pouvoir dire, il faut que je puisse pardonner, aller vers mon père. Et alors, elle s'est mise à prier avec une autre sœur. Elles ont prié. Et puis, dans sa prière, elle a pu dire « Papa ». Et elle l'appelait « Papa », alors que ça faisait 30 ans qu'elle n'avait pas pu, ou 40 ans. Et lui dire « Je veux te voir. Voilà la puissance de la prière, voilà la puissance de l'Esprit de Dieu, de Jésus à travers moi, pour justement mettre en route cette déclaration de Jésus. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors voilà donc cet amour qui n'est pas un sentiment, mais quelque chose qui est animé par l'Esprit de Dieu en moi et qui m'amène à prier. Et quand on a prié pour quelqu'un, les sentiments sont complètement changés. La dernière chose que je vous ai mis sur l'écran, c'est montrer de l'amour envers et contre tout, a plus d'une fois brisé les cœurs les plus endurcis. Je voudrais quand même vous raconter encore une histoire d'un frère de notre assemblée. Son fils, 30 ans, s'est trouvé à la sortie du métro à Paris, au milieu d'une rixe, et il a été poignardé. Eh bien, notre frère a voulu savoir qui était ce meurtrier, aller le trouver en prison et lui dire « Jésus m'a pardonné de mes péchés. Moi aussi, dans un sens, j'étais meurtrier. J'ai brisé une famille. Eh bien, parce que Jésus m'a pardonné, je vous pardonne. » Et il a voulu donner ce témoignage le jour de son procès. « Je suis chrétien. Jésus-Christ m'a pardonné. Il est mort pour mes fautes. Et je pardonne l'assassin de mon fils. » Voilà ce que peut faire Dieu dans la vie de quelqu'un qui se confie en lui. Le troisième, c'est la critique. La critique. Et alors, nous avons un texte dans Matthieu, chapitre 7, et au verset 5. Mais nous lisons à partir du verset 1er. « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, car du jugement dont vous jugez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne t'aperçois-tu pas de la poutre dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Permets-moi, je vais ôter la paille de ton œil, et voici la poutre est dans ton œil. » Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. » Ah, la critique! Que de ravages, que de catastrophes. Cette critique qui va avec le jugement, la supériorité, la médisance. Celui qui critique, c'est celui qui se met au-dessus, qui s'exalte pour davantage abaisser l'autre. Ça n'existe pas parmi les frères et sœurs, n'est-ce pas ? Le problème de la critique, c'est que c'est en général le résultat d'une interprétation de la pensée de l'autre. Vous voyez, par exemple, vous avez un frère ou une sœur qui est toujours prêt à rendre service, toujours là auprès de quelqu'un, de dire « je suis là près de toi ». Vous avez dit « regarde ce frère, regarde cette sœur, elle veut toujours se mettre en avant ». Eh bien non, dans son cœur, elle est pleine d'amour pour tous, pour tous les frères. Vous voyez ce que c'est la critique ? C'est quelque chose de terrible. C'est l'interprétation de ces... Mais c'est qui peut faire ça? Pour qui se prend-on lorsqu'on critique? Ben pour Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut lire dans les intentions du cœur des hommes. Regardez ce que dit Paul. Hein, c'est « Ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que le Seigneur vienne et aussi il mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et qui manifestera les conseils des cœurs. » Alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Alors on dira, oui, le Seigneur, il va révéler les mauvaises choses. Non, ben des bonnes choses, justement. Ben souvent, nous avons vu mal, alors que c'était bien. Moi, je suis surpris quand je lis « Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre ». Mais je me dis, comment est-ce qu'on peut voir clair, pas être gêné, avec une poutre dans son œil? L'œil... Si vous regardez quelques chapitres précédents dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, c'est l'œil, c'est la lumière du corps. C'est quelque chose qui permet l'éclairage, qui correspond à au cœur, si on lit bien le texte, c'est mon cœur. S'il y a quelques péchés dans ma vie non jugés, eh bien, mon discernement, ma vision est déformée, vraiment déformée. Alors déjà, cette pensée de ne pas accepter dans ma vie un seul péché dont je suis conscient, c'est essentiel. Alors, comment faire, à votre avis, pour voir alors qu'on a une poutre dans l'œil? Eh bien, c'est sans doute parce qu'on s'est habitué à voir moins bien. Donc, c'est déjà une habitude. Et attention, prenons garde à une chose. C'est que dans la vie, un péché ponctuel, c'est un accident. Et ça, vous savez, quand vous péchez pour la première fois dans un domaine, tout d'un coup, vous êtes repris et vous confessez, Seigneur. Et puis, il peut y avoir deux, trois, un certain nombre de fois, et ça devient une habitude. Et puis, si c'est très souvent, c'est la caractéristique de la personne. Quelqu'un qui boit du vin, il a bu. Mais quelqu'un qui boit tout le temps ou très souvent, c'est un alcoolique. Quelqu'un qui dit un mensonge, eh bien, il a menti. Et c'est un menteur quand c'est son habitude. Ou c'est un calomniateur. Voilà. Et ça, c'est... On s'habitue et on ne se rend plus compte. Par contre, on continue à voir quand mon frère ou ma sœur a un défaut dans sa manière de vivre, ou ce que je pense être un défaut. Alors, voyez, la chose importante, c'est donc d'être sans complaisance avec soi-même, avant tout, et clairvoyant sur ses propres faiblesses, en s'examinant soi-même dans la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu. Et pourquoi faire avoir un œil bien clair? Parce que nous avons un rôle vis-à-vis de notre frère. C'est d'ôter le brin de paille qu'il y a dans son œil. Ça, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel, cela? Je voudrais vous lire un verset dans le livre de Job qui va vous montrer en quoi c'est essentiel. Mon frère m'intéresse. C'est important pour moi. Et dans le livre de Job, on lit au chapitre 6, un verset que vous avez peut-être remarqué, et au verset 14, nous lisons « À celui qui est défaillant, qui a un brin de paille dans son œil, est due la miséricorde de la part de son ami. Sinon, il abandonnera la crainte du Tout-Puissant. » Mon frère est en difficulté. Je dois, c'est pas simplement une possibilité, mais mon devoir est d'aller vers lui pour l'aider. Est-ce que vous avez eu quelquefois une saleté dans l'œil, une petite poussière dans l'œil? Vous avez remarqué quelle délicatesse il faut avoir pour enlever cela, sinon blesse l'œil. Eh bien, quelle délicatesse avoir vis-à-vis de mon frère, de ma sœur. Et vous lisez avec moi ce verset qui est là. Frère, quand même un homme s'est laissé surprendre un brin de paille par quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, tout doucement. Prenez garde à toi-même, de peur que toi aussi tu sois tenté. Attention, je peux aussi la même chose. Voilà, si nous ne sommes pas dans le sentiment de la grâce de Dieu pour chaque moment de ma vie, alors je ne peux pas être en aide. Et pourtant, est due la miséricorde de mon frère qui est défaillant. Alors, voilà, que le Seigneur nous aide vraiment à avoir cette approche. Mais nous pouvons la voir, Jésus nous dit, que si, premièrement, nous avons enlevé la poutre, mais ça avait commencé par un mot, hypocrite. L'hypocrisie, c'est soit s'attribuer des vertus ou s'attribuer des mérites que nous n'avons pas. Mais ça veut peut-être aussi dire que nous avons une culpabilité que nous voulons cacher. Et alors l'hypocrite, eh bien, il feint de ne pas avoir de problème, d'être bien. Et ainsi, il peut aider ou s'occuper des autres. Eh bien, c'est un hypocrite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est responsable. Et nous sommes responsables de notre état spirituel et nous devons être conscients de la poutre que nous avons dans notre œil. Voilà, que le Seigneur nous aide vraiment pour cesser cette critique. La chose suivante que nous dit Jésus, il nous dit dans Matthieu, si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il se repent, tu as gagné ton frère. Alors ça, c'est formidable, pouvoir gagner son frère. Mais si seulement nous ne pouvions ne pas avoir de péché entre nous, qui entrave notre relation. Mais le problème du conflit, c'est que c'est normal. Les conflits, c'est normaux. Et pourquoi c'est normaux? Pourquoi les conflits sont inévitables? Eh bien, parce que nous sommes différents. Dieu n'a pas fait de nous des clones. Il nous a fait entièrement différents. Et alors, nous avons des tempéraments différents, nous avons des arrière-plans différents, des éducations différentes. Nous sommes complètement différents. Nous avons aussi des convictions différentes. Même pour un même but, nous avons une manière différente d'y arriver. Et voilà, nous avons souvent des attentes différentes. Mais je voudrais justement vous lire à propos d'un conflit, celui de Paul et de Barnabas, dans le livre des Actes. Et pour moi, il est particulièrement instructif. Parce que ce que nous disons là, ça peut aussi fonctionner dans les relations de couple, dans les familles. Et nous lisons dans Actes chapitre 15 et au verset 36, quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons maintenant visiter les frères dans chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils font. » Voilà, donc ils ont un but, mais vraiment un bon but. Fondamentalement, c'est vraiment un merveilleux projet. Barnabas se proposait de prendre aussi avec eux Jean appelé Marc, mais Paul jugeait bon de ne pas prendre avec eux quelqu'un qui les avait abandonnés dès la Pamphylie et n'était pas allé à l'œuvre avec eux. Et il eut donc entre eux de l'irritation, ça veut dire une vive discussion, même le mot, c'est un paroxysme de discussion, au point qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et que Barnabas, prenant Marc, fit voile pour Chypre, mais Paul, lui, choisit Silas et partit après avoir été recommandé à la grâce du Seigneur par les frères. Et il parcourait la Syrie, la Cilicie, fortifiant les assemblées. Voilà donc deux personnes qui ont un bon projet et voilà, ils ont un conflit. Alors, l'important, c'est que ce conflit ne se termine pas par quelque chose de destructeur, mais que ce conflit amène quelque chose qui construise. Et vous voyez, le problème, c'est que quand il y a un péché qui fait qu'il y a une rupture, alors ça, c'est que le conflit a été mal géré. Il y a eu un problème qui s'est passé. Et ça peut amener des traces pour longtemps. Mais j'ai marqué ici que les conflits, ce n'est pas une catastrophe. Parce que si là, il y a un réel désaccord, eh bien, nous apprenons que les deux serviteurs de Dieu, eh bien, leur service n'est pas fini. La catastrophe, c'était que le conflit aboutisse à l'anéantissement du service de ces deux serviteurs. Eh bien, non, justement, ça n'a pas été le cas. Les deux ont pu redémarrer. Et ce qui est extraordinaire, c'est si d'un côté, on a Paul va pouvoir continuer avec un autre camarade son ministère public envers les non-juifs et avoir tout ce que nous avons dans la parole de Dieu. De son côté, Barnabas est parti avec son neveu Marc et a pu préparer Marc pour devenir celui qui a été choisi pour écrire cet évangile qui nous apprend du Seigneur, ce côté le Seigneur comme le serviteur parfait. C'était celui qui était le mieux qualifié pour cela, parce qu'il a appris en servant, peut-être par des échecs, mais il a appris vraiment ce que c'était qu'un service, qui était au service du Maître. Et il a écrit ce merveilleux évangile. Alors, voilà, ce n'est pas une catastrophe, mais troisièmement, un conflit bien géré. Le seul qui est vainqueur, c'est Dieu. Et vous êtes bien d'accord avec moi que souvent, quand il y a un conflit, on est là à chercher, compter les points, celui qui a raison, celui qui a tort. Ils ont tous les deux raison, ceux dont on vient de parler, sur le fond, ils ont tous les deux tort, sur la forme. Mais qui a raison? Dieu a eu raison des deux. Gloire à Dieu. Les deux serviteurs ont pu apprendre avec cela et devenir ce qu'ils sont devenus. Et à Dieu la victoire. Nous ne sommes pas là pour chercher, nous, la victoire, mais la paix, mais que Dieu soit vraiment victoire et gloire. Et c'est ce que nous lisons. Quel est le résultat? Paul et Barnabas se retrouvent pour le travail. 1 Corinthiens 9. Et ils parlent comme des frères qui travaillent ensemble. Le pardon a eu lieu. Marc est au service de Paul jusqu'à la fin de sa vie. Ça veut dire qu'il a pardonné à celui qui a dû lui dire « Moi, je veux pas de ce serviteur qui nous a laissé tomber. » Mais c'était quand même humiliant pour ce jeune serviteur. Il a pardonné. Et Paul a besoin de ce serviteur-là à la fin de sa vie. C'est le pardon total. Il y a eu cet esprit de réconciliation. Et nous avons ici appris du Seigneur, si ton frère a péché contre toi, va. Nous n'avons jamais à attendre réparation. S'il a péché contre moi, va. Si tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, va aussi, on trouve. Toujours, qu'on soit l'offenseur ou l'offensé, va. Nous n'avons pas le droit d'attendre. Voilà, c'est ce que Jésus nous dit maintenant pour que la paix revienne et pour que nous puissions à nouveau être consacrés dans l'œuvre du Seigneur. Et ça, c'est important dans notre vie de couple aussi. Beaucoup de vies de couple sont bloquées parce qu'il y a des luttes, conflits, luttes ensemble, des luttes qui nous brisent notre élan, qui fait qu'il n'y a plus d'énergie. Alors, le résultat, c'est catastrophe. Eh bien, que le Seigneur nous aide aussi à réaliser cela. Va. Nous sommes responsables de gérer, de pouvoir prendre l'initiative pour la guérison d'une difficulté, d'un conflit qui a dégénéré.